Vous écoutez, on lit pour vous.
Le jeûne peut-il améliorer le succès des traitements anticancéreux? Un texte de Richard Béliveau, paru le 31 octobre 2022 dans le Journal de Montréal. Une étude clinique rapporte que des cycles de restriction calorique sévère améliorent l'immunité anticancéreuse, un phénomène souvent associé à un meilleur pronostic. Les études précliniques ont montré qu'une restriction calorique sévère obtenue par des épisodes cycliques de jeûne ou à l'aide de régimes qui imitent le jeûne, très pauvres en glucides et protéines, améliore l'activité antitumorale de la chimiothérapie, de l'immunothérapie ou des thérapies endocriniennes. Ces effets anticancéreux positifs ont été attribués à deux grands effets du jeûne ou des régimes imitant le jeûne. 1. Une réduction de la glycémie, de l'insuline et du facteur de croissance IGF-1, ce qui réduit la croissance tumorale et empêche la réparation des dommages infligés aux cellules cancéreuses par les traitements. Et 2. Une augmentation de l'immunité antitumorale, infiltration des tumeurs par les cellules TCD8 positifs et diminution des cellules T immunosuppressives. Du labo à la clinique. Pour voir si ces effets encourageants peuvent être reproduits chez les humains, des essais cliniques ont été menés pour évaluer la faisabilité et l'activité antitumorale de ces régimes imitant le jeûne chez des patients atteints de cancer et qui sont traités avec des thérapies antitumorales standards. Dans un de ces essais, 101 patients qui étaient traités pour divers types de cancers ont accepté d'adhérer à des cycles comprenant 5 jours d'un régime hypocalorique sévère, 600 calories la première journée, suivie de 4 jours à 300 calories, entrecoupées d'une période de 3 semaines d'alimentation normale. L'objectif de cette restriction calorique est d'imiter le jeûne en diminuant drastiquement la quantité de calories ingérées, mais sans toutefois causer de malnutrition grâce à un apport en végétaux, fruits, légumes, noix, thé, riches en vitamines, minéraux et gras essentiels. Par exemple, un menu typique comprenait un repas composé de 300 g, 75 kcal, de légumes variés, épinards, choux, courgettes, laitue, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, 108 kcal, et un fruit, 100 kcal, comme une orange, une pomme ou une poire. Ce type d'intervention où les volontaires mangent peu, mais sans jeûner complètement, est beaucoup plus facile à accepter. Et c'est exactement ce que l'étude a démontré, avec 99 % des patients qui sont parvenus à suivre un cycle de restriction sévère et 76 % qui ont terminé au moins 3 cycles. De plus, les pertes de poids qui surviennent durant la période de jeûne sont annulées par le retour à l'alimentation normale et ne semblent donc pas poser de danger pour la santé de la majorité des patients. Effets métaboliques et immunitaires. La mise en pratique de ces cycles de restriction calorique sévère a eu des effets spectaculaires sur le métabolisme, avec des diminutions de la glycémie, 19 % des taux d'insuline, 50 % et d'IGF-1, 30 %. D'un point de vue thérapeutique, la meilleure nouvelle demeure cependant la forte modulation de l'immunité anticancéreuse. Des analyses transcriptomiques ont révélé que les cycles du régime imitant le jeûne diminuent les cellules immunitaires immunosuppressives, avec en parallèle une amélioration de plusieurs signatures immunitaires, réponses immunitaires intratumorales notamment, qui sont connues pour être associées à une meilleure réponse clinique chez les patients atteints de cancer. Selon les auteurs, la baisse combinée des taux de sucre sanguin, d'insuline et d'IGF-1 causée par la réduction drastique de l'apport en glucides et en protéines, modifie en profondeur le métabolisme des cellules cancéreuses et immunitaires. Il y a alors érosion du bouclier immunosuppresseur, normalement érigé par les tumeurs pour se protéger et croître sans encombre, permettant ainsi à l'immunité de parvenir à effectuer son travail et de détruire les cellules anormales. C'était « Le jeûne peut-il améliorer le succès des traitements anticancéreux? » Un texte de Richard Béliveau, paru le 31 octobre 2022 dans le Journal de Montréal.
De nouvelles données indigestes sur les microplastiques. Un texte de Shannon Osaka du Washington Post, paru le 25 janvier 2026 dans la presse. Pour de nombreux scientifiques, 2025 a été l'année des microplastiques. On savait depuis longtemps que de minuscules particules de plastique flottent dans les rivières et les lacs et s'accumulent dans l'océan. Mais c'est seulement l'an dernier qu'ils ont constaté à quel point ces fragments, souvent invisibles à l'œil nu, s'introduisent dans nos aliments et notre corps. On comprend mieux aussi les conséquences sur la santé humaine. Voici quelques faits nouveaux sur les microplastiques. Dans le cerveau. On avait déjà trouvé de ces particules dans les testicules, les reins, le foie, le placenta et même les premières selles d'un bébé. L'an dernier, des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis ont examiné des cerveaux de corps humain pour savoir si des microplastiques traversent la barrière hémato-encéphalique. Non seulement les plastiques pénètrent le cerveau, ils s'y accumulent. Ainsi, les personnes décédées en 2024 avaient au cerveau des concentrations nettement plus élevées que les personnes décédées en 2016. Et il n'y avait aucune corrélation entre la quantité de microplastiques et l'âge de la personne au moment de son décès. Les chercheurs ont alors examiné des échantillons de cerveau remontant à 1997 et constaté la même tendance. Les échantillons plus récents contiennent plus de microplastiques. L'étude estime que les microplastiques dans le cerveau humain représentent en moyenne 0,5 % de son poids, soit environ 7 grammes, le poids d'une cuillère à café en plastique. Cette conclusion est contestée par d'autres experts, selon qui certaines cellules graisseuses du cerveau peuvent ressembler à des microplastiques. Alzheimer et maladies cardiaques. La science des microplastiques est récente, mais des études menées en 2025 les associent à plusieurs maladies, notamment l'Alzheimer et les pathologies cardiaques. Dans une étude de l'Université du Rhode Island, on a utilisé des souris présentant une prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer. Exposées à des particules de polystyrène, la styromousse, elles ont montré des signes de troubles de mémoire correspondant au stade précoce de l'Alzheimer. Les souris non exposées n'avaient pas les mêmes problèmes. D'autres indices sont apparus. L'étude menée au Nouveau-Mexique a révélé que les patients atteints de démence présentaient de 3 à 5 fois plus de microplastiques que les sujets sains. Mais, nuancent les chercheurs, la démence peut rendre le cerveau plus poreux, ce qui signifie que les cerveaux examinés étaient plus vulnérables à ces particules. Les scientifiques examinent aussi le lien entre microplastiques et maladies cardiaques. Une étude italienne publiée en 2024 a constaté que les personnes présentant des microplastiques dans une artère principale étaient plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou de décéder au cours des 3 années suivantes. Une autre étude, menée à l'Université de la Californie à Riverside, a révélé que les souris mâles exposées à des microplastiques étaient plus susceptibles de développer une athérosclérose, soit une accumulation de plaques dans les artères, pouvant entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Quels aliments éviter? Partout dans le monde, on découvre des microplastiques dans les aliments et boissons. Une étude britannique en a trouvé dans le café, le thé, l'eau en bouteille, les jus de fruits, les boissons énergisantes et les boissons gazeuses. L'eau du robinet de nombreux pays en contient aussi, tout comme les fruits, les légumes, la viande, les aliments hautement transformés et le poisson. Mais un des principaux complices des microplastiques est la chaleur. Ainsi, un gobelet en plastique contenant une boisson chaude est plus susceptible de libérer des particules dans le liquide que s'il s'agissait d'une boisson froide. Même chose pour les bacs et récipients chauffés ou placés au micro-ondes. Les aliments hautement transformés contiennent en général plus de microplastiques, sans doute parce qu'ils passent par une longue chaîne de production et des équipements de transformation avant d'arriver dans l'assiette. De plus, on y trouve souvent phtalates ou bisphénols, des substances chimiques plastiques pouvant perturber le système hormonal. Plusieurs questions subsistent quant au risque des microplastiques. Les chercheurs tentent de déterminer à quoi pourrait ressembler l'exposition moyenne d'un humain type et s'ils sont nuisibles pour la santé seulement à des niveaux d'exposition anormalement élevés. S'il faut retenir une seule chose de 2025, c'est qu'il nous faut des données précises, des méthodes d'analyse standardisées et des recherches de haute qualité pour éclairer la prise de décision, affirme Kimberly Wise-White, vice-présidente des affaires scientifiques et réglementaires de l'American Chemistry Council, un groupe professionnel représentant les entreprises chimiques. Selon Mme White, un rapport publié l'année dernière par l'Autorité européenne de sécurité des aliments note que la plupart des études sur les microplastiques dans les aliments réalisées jusqu'à présent ne répondaient pas aux normes de qualité minimales. Mais les scientifiques affirment que de nouvelles recherches sont en cours. Le monde a produit 450 millions de tonnes de plastique en 2025, et ce chiffre continue d'augmenter. Si tous ces plastiques finissent par se désagréger en minuscules particules, la planète sera confrontée à une forme de pollution dont la prolifération sera sans précédent et dont nous savons très peu de choses. C'était « De nouvelles données indigestes sur les microplastiques », un texte de Shannon Osaka du Washington Post, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
L'alimentation intuitive, comment ça fonctionne? Un texte commandité paru le 24 novembre 2025 dans La Presse. Dans l'alimentation intuitive, il n'existe ni bon ni mauvais aliment et les restrictions ne font jamais partie du menu, bien que certains principes l'encadrent. Comment intégrer concrètement cette approche au quotidien sans culpabiliser? Survol de ce concept rempli de sens avec la nutritionniste diététiste Marjolaine Cadieux, autrice du livre « L'alimentation intuitive, c'est quoi ?» Qu'est-ce que l'alimentation intuitive ? Basée sur 10 principes, cette philosophie, qui prône la flexibilité et la bienveillance, se situe aux antipodes de la culture des diètes. Elle consiste essentiellement à développer une relation saine avec la nourriture en considérant autant les envies que les besoins. L'alimentation intuitive, ce n'est pas juste de manger ce qui nous tente. On doit aussi penser à nos besoins et savoir reconnaître les signaux de faim et de rassasiement, précise Marjolaine Cadieux. Ici, tous les aliments sont banalisés, y compris ceux traditionnellement associés à la malbouffe. Marjolaine Cadieux donne un exemple. « Je me réveille le matin avec une envie de poutine. Mais je travaille tout l'avant-midi. Si je me laissais tenter par cette envie, je ne me sentirais probablement pas bien. J'aurais soif parce que c'est salé ou encore très faim peu de temps après, parce que ce n'est pas un déjeuner soutenant. L'alimentation intuitive, c'est plutôt d'apprendre à trouver un équilibre entre ses envies et ses besoins. Je pourrais décider, par exemple, de manger une poutine plus tard dans la journée ou d'en manger une petite portion. les 10 principes de l'alimentation intuitive. 1. Rejeter la culture des diètes. 2. Honorer sa faim. 3. Faire la paix avec les aliments. 4. Cesser de catégoriser les aliments. 5. Découvrir le plaisir de manger. 6. Considérer sa sensation de rassasiement. 7. Vivre ses émotions avec bienveillance. 8. Respecter son corps. 9. Ressentir les bienfaits du mouvement. 10. Honorer sa santé et ses papilles gustatives. D'où ça vient? Si sa grande popularité sur les réseaux sociaux peut laisser croire qu'il s'agit d'un courant nouveau, l'alimentation intuitive remonte pourtant aux années 1990. À l'époque, ça a été développé en réponse à la culture des diètes, souligne la nutritionniste diététiste. Selon elle, le retour en force de l'alimentation intuitive s'explique en partie par l'intérêt renouvelé pour les diètes, comme le régime cétogène et le jeûne intermittent. Il y a un effet de balancier. Avec les tendances, on passe souvent d'un extrême à l'autre. L'alimentation intuitive se vit différemment pour chaque personne. Elle s'adapte selon le stade de vie, les objectifs et les besoins. Ça fluctue toujours. Ce n'est pas rigide comme une diète, nous dit Marjolaine Cadieux. À qui ça s'adresse? C'est un outil qu'on peut utiliser à certains moments, mais ça ne convient pas à tout le monde, estime-t-elle, en prenant l'exemple d'une personne qui souffrirait d'anorexie. On ne pourrait lui demander de se connecter à son sentiment de rassasiement. La faim, ça s'exprime d'une multitude de façons. Ça ne doit pas être intense. Le simple fait de penser à de la nourriture est un signe de faim. Y a-t-il des bienfaits qui y sont associés? L'alimentation intuitive présente plusieurs avantages aux yeux de la nutritionniste diététiste. D'abord, elle favorise une plus grande variété alimentaire et aide à maintenir de bonnes habitudes. On y associe aussi un meilleur équilibre psychologique, moins de culpabilité, une relation plus saine avec la nourriture et une image corporelle plus positive, explique-t-elle. Par où commencer? Avant de se lancer, mieux vaut s'informer sur le sujet. Si on y va à tâtons, ça risque de ne pas durer longtemps, dit Marjolaine Cadieux. Dans son guide pratique, elle présente d'ailleurs une façon visuelle d'aborder l'alimentation intuitive, dans laquelle les choix alimentaires sont guidés par trois sphères interreliées, l'intuition, la tête et les signaux corporels. L'intuition, c'est l'envie de se faire plaisir en mangeant. Elle fait partie intégrante de l'alimentation intuitive. La tête réfère aux connaissances en matière d'alimentation équilibrée, ainsi qu'aux émotions. Pour pratiquer l'alimentation intuitive, il est important de savoir reconnaître les signaux de la faim et du rassasiement. C'était « L'alimentation intuitive, comment ça fonctionne ?» un texte commandité paru le 24 novembre 2025 dans la presse.
Lui, c'est le Good Cop, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. Hugo Larochelle a de grands souliers à chausser. Après Joshua Bengio, fondateur de l'Institut MILA, il devient à son tour directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Si celui dont l'IA a bouleversé la vie est conscient du défi, Rien ne laisse croire qu'il est intimidé, a constaté notre chroniqueur. Comment succède-t-on à une légende ? Hugo Larochelle vient d'être nommé directeur scientifique de MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. Ce poste était occupé jusqu'ici par Joshua Bengio, sommité mondial, qui a fondé ce centre de recherche qui lui a permis d'acquérir une renommée internationale. C'est un peu l'équivalent de prendre la relève de Steve Jobs chez Apple ou de Carey Price chez le Canadien. C'est une très grosse commande. Pourtant, si Hugo Larochelle est conscient du défi, rien ne laisse croire qu'il est intimidé. Assis dans un minuscule café de la rue Saint-Zotique-Ouest, à quelques dizaines de mètres des bureaux de MILA, il n'a pas l'air le moins du monde d'avoir le trac. « On a besoin de plus d'intelligence, pas moins », affirme-t-il, « pour résoudre les défis d'aujourd'hui. Et l'IA, c'est un outil pour mettre plus d'intelligence dans notre société. » Cette idée le motive depuis qu'il est au doctorat, précise-t-il. Et comme l'intelligence artificielle est plus accessible et plus utilisable que jamais, il est convaincu qu'il y a actuellement une occasion à saisir et qu'elle est historique. Hugo Larochelle ne vous explique pas ça de façon intéressée, comme un entrepreneur qui cherche à vous vendre quelque chose. Avec ses airs d'éternel étudiant, à la Joseph Gordon-Levitt, il semble vraiment débordé d'enthousiasme. Un peu comme s'il vous annonçait qu'il vient de s'inscrire à un nouveau programme universitaire qui le passionne. C'est vraiment stimulant. J'ai vraiment beaucoup d'énergie, lance le chercheur. À MILA, on est là pour former la main-d'œuvre qui va pouvoir stimuler notre économie. On a aussi un rôle à jouer pour la création de nouvelles entreprises et un rôle pour démystifier ça et pour s'assurer que le public se sent outillé. Relevons nos manches. Il faut savoir aussi que ce changement se fait sous certains aspects dans la continuité, mais pas sous d'autres, et j'y reviendrai. Car Hugo Larochelle est lui-même un des émules de Joshua Bengio. Dès la première année de son baccalauréat en informatique, il a tenté de décrocher un stage dans le laboratoire du prestigieux chercheur. « Je n'avais pas assez de mathématiques encore. » Alors il a dit « Reparle-moi l'année prochaine. » J'ai fait un stage l'année suivante et là, j'ai pogné la piqûre. Il y avait tellement de concepts intéressants, mystérieux, fascinants que je n'ai jamais arrêté de pousser, dit-il au sujet de l'intelligence artificielle. Joshua Bengio a aussi été par la suite le directeur de sa thèse de doctorat à l'Université de Montréal. Hugo Larochelle a également étudié avec le prix Nobel Geoffrey Hinton, lui aussi considéré comme l'un des grands parrains de l'intelligence artificielle, à l'instar de Joshua Bengio. Si l'IA semble en voie de transformer nos sociétés, elle a déjà, au cours de la dernière décennie, profondément bouleversé la vie d'Hugo Larochelle. En 2014, alors qu'il enseignait au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, il a cofondé une start-up baptisée WetLab, dans le but de permettre aux entreprises d'automatiser la configuration d'un système d'intelligence artificielle. Cette jeune pousse a été rachetée par Twitter en 2015 et le chercheur a brièvement déménagé à Boston avec sa famille. Il est le père de 4 enfants. Puis, dès 2016, courtisé par Google, il a contribué à l'implantation d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle de ce géant américain à Montréal, dont il a pris la tête. J'avais toujours une pensée. Quand je faisais mon doctorat, si j'avais voulu avoir une job comme ça dans un lab de haute technologie, il aurait fallu que j'aille aux États-Unis. Je n'avais pas vraiment le choix à ce moment-là, explique-t-il. Par conséquent, ce qu'il voulait à l'époque, c'était contribuer à notre écosystème local. Il le souhaite toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a posé sa candidature au poste de directeur scientifique de MILA. Car redonner est, de toute évidence, quelque chose qui fait partie de sa philosophie de vie. Il y a 3 ans, avec sa conjointe Angèle Saint-Pierre, il a fait un don de 1 million de dollars à l'Université de Montréal. La somme a permis de créer une bourse annuelle de 40 000 dollars offerte à des étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle en lien avec les enjeux environnementaux. La réalité, c'est que j'ai une vie professionnelle extraordinaire, dit Hugo Larochelle. Je ne rêvais même pas de ça quand j'étais étudiant. Ça fait que je me sens aussi un devoir de redonner à MILA en m'impliquant moi-même et à l'Université de Montréal où j'ai été formée. Il ne le crie pas sur les toits, mais il donne aussi un coup de pouce à Centraide depuis une demi-douzaine d'années. Il est impliqué dans l'organisation d'un événement bénéfice pour la communauté technologique de Montréal. Lorsqu'il parle d'intelligence artificielle, Hugo Larochelle met aussi beaucoup l'accent sur les changements positifs qu'elle peut provoquer dans notre société. On était curieux de savoir c'est quoi l'intelligence. et une façon de creuser cette question était d'essayer de l'implanter et de la simuler dans un ordinateur. C'est fascinant d'un point de vue scientifique, mais je pense qu'on voulait avoir un impact positif sur le monde, toutes les sphères incluses. L'économie, la science et ainsi de suite, explique le chercheur. Et là, on sent que c'est comme à portée de main. On voit déjà des choses qui se font et qui sont extraordinaires, et on voit que d'autres contributions positives peuvent être faites aussi. Joshua Bengio n'a jamais nié que l'intelligence artificielle allait permettre des avancées positives, mais il a déployé beaucoup d'énergie ces dernières années pour mettre tout le monde en garde quant au dérapage potentiel de cette technologie. Le célèbre chercheur a d'ailleurs cédé sa place comme directeur scientifique de Mila pour se consacrer à une nouvelle organisation, Loi Zéro, dans le but de concevoir des systèmes d'intelligence artificielle sécuritaires. Au sujet des dangers potentiels de l'IA, Hugo Larochelle adopte ce qu'il décrit comme une posture de vigilance. Mais on sent bien que ce n'est pas ce à quoi il va consacrer le plus clair de son temps. Et c'est probablement de cette façon qu'il va se démarquer de Joshua Bengio. Si ce dernier jouait davantage le rôle du bad cop, Hugo Larochelle a pour sa part davantage l'air du good cop. Hugo Larochelle affirme « Je pense que c'est important de ne pas manquer le bateau de l'opportunité maintenant en se préoccupant trop de ce qui pourrait peut-être arriver, mais aussi peut-être ne pas arriver. » Hugo Larochelle précise que certains des quelques 1500 chercheurs de Mila vont explorer les angles morts des développements de l'IA, à l'exemple de Joshua Bengio et de sa nouvelle équipe de Loi Zéro. Mais il faut aussi mettre des efforts pour explorer des applications positives, bénéfiques, autant sur le plan scientifique que pour nos contributions à l'écosystème des jeunes pousses qui émergent et forment le talent pour le reste de notre économie. Son souhait, dit-il, c'est qu'on puisse tenir deux discussions en même temps. L'une sur les risques potentiels liés à l'avenir de l'IA, l'autre sur ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est de toute évidence cette deuxième discussion à laquelle Hugo Larochelle souhaite contribuer davantage en tant que directeur scientifique de Mila. Qui est Hugo Larochelle ? Naissance à Sherbrooke en 1981, ses parents habitaient alors Asbestos. Il obtient son baccalauréat en sciences informatiques et mathématiques en 2004 à l'Université de Montréal. Il obtient son doctorat en 2009, également à l'Université de Montréal. Son directeur de thèse était Joshua Bengio. Il est cofondateur de l'entreprise WetLab, achetée par Twitter en 2015. Il dirige le laboratoire montréalais de Google DeepMind de 2016 à 2025. Il entre en fonction en septembre 2025 comme directeur scientifique de MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. C'était « Lui, c'est le Good Cop », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.